c'est une décision assez extraordinaire, décision qui met en danger potentiellement des vies américaines, et sans parler de vies arabes, palestiniennes et israéliennes. Il n'y a aucune justification diplomatique, et malgré cela, il prend cette décision. Je pense que ça montre à quel point, pour le président Trump, être fidèle à certains engagements qui sont importants pour sa base, surtout en ce moment, lorsque sa cote de popularité est assez basse, eh bien c'est ça qui semble avoir été plus important et prioritaire par rapport à toute autre considération. Et c'est là que le désaccord de Mattis et Tillerson est important.
Les Palestiniens disent qu'avec cette annonce, les États-Unis n'ont plus la place de médiateur dans le processus de paix. Les Américains sont hors jeu maintenant.
Il faut être un peu honnête, on ne peut pas parler de processus de paix. Et on peut difficilement parler d'un rôle de médiateur des États-Unis, en tout cas d'un rôle médiateur efficace ces dernières années. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à long terme, ça a des conséquences sur la crédibilité des États-Unis, ça a des conséquences pour les relations des États-Unis avec certains pays, en tout cas avec une certaine opinion publique, et ça a des conséquences pour les choix que les Palestiniens vont devoir faire. C'était évident depuis un certain moment que le processus de paix ne mène à rien, mais maintenant que c'est assez clair qu'ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis, ils vont devoir confronter des questions que la direction palestinienne a sans doute préféré éviter depuis quelque temps.
Lesquelles, par exemple ?
Quel est son avenir dans une architecture où il n'y a pas vraiment de négociation crédible, où il n'y a pas de médiateur crédible, où il n'y a pas de processus de paix crédible? Quels sont les outils dont disposent les Palestiniens dans cette optique? Quels sont leurs objectifs? Et quelle stratégie est-ce qu'ils vont devoir employer à la fois sur le plan interne et sur le plan externe? Ça remet en cause une stratégie qui a été mise en œuvre depuis beaucoup, beaucoup de temps et qui malheureusement s'est révélée être un échec.
Est-ce qu'on peut dire que la solution à deux États est toujours viable? Et est-ce que Jérusalem-Est peut être la capitale d'un possible État palestinien?
D'abord, pour en revenir à la décision américaine, c'est une décision pleine d'ambiguïté. Donc, les conséquences pratiques de cette décision, on ne les comprend toujours pas. Lorsqu'on dit que Jérusalem est la capitale d'Israël, quelle Jérusalem? Il y en a de multiples ces jours-ci. Lorsqu'on entend les officiels américains essayer d'expliquer la portée de cette décision, ils sont incapables de définir de quelle Jérusalem il s'agit. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore envisager une solution en deux États? Il y a des experts qui vous diront que ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de possibilité de deux États à cause des réalités sur le terrain. D'autres vous diront non, tout ce qui a été fait peut être défait par des décisions politiques et donc on peut faire marche arrière. Mais il est sûr que plus le temps passe, plus les décisions israéliennes entérinent un contrôle quand même de plus en plus fort sur certaines parties de la Cisjordanie, plus cette éventualité devient difficile à envisager et encore plus difficile à mettre en œuvre. On entend de plus en plus de voix palestiniennes qui disent « c'en est fini de l'idée de deux États ». De plus en plus de Palestiniens, surtout les jeunes, disent « pourquoi ne pas pivoter vers une autre stratégie qui serait d'appeler un seul État, mais avec des droits égaux, un État pour Israéliens et Palestiniens, juifs et arabes, avec des droits civiques, des droits électoraux, des droits pour tous ».
Donald Trump a justifié sa décision en disant « c'est la réalité du terrain ». Alors justement, est-ce que ça risque pas d'encourager les Israéliens à pousser encore plus la colonisation pour la faire accepter in fine comme la réalité du terrain ?
Il y a certains Israéliens aujourd'hui qui disent « voilà, avec cette décision, il faut aller très rapidement vers la prochaine étape qui est l'annexion d'autres parties de territoires occupés ». Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est lorsqu'on dit « c'est la réalité ». C'est vrai que c'est la réalité qu'aujourd'hui, les institutions israéliennes sont basées à Jérusalem. C'est vrai que la réalité aujourd'hui, c'est qu'Israël considère Jérusalem comme sa capitale. C'est vrai aujourd'hui que la réalité, c'est que la Cisjordanie, dans tout accord de paix, sera sous souveraineté palestinienne, y compris une partie de Jérusalem. Donc c'est une décision biaisée qui ne reconnaît pas la réalité, parce que cette réalité, elle est trop complexe, trop indéterminée, pour qu'on puisse la résumer en une seule phrase, en une seule reconnaissance. On peut beaucoup épiloguer sur cette décision, décision qui, à mon avis, est inutile, dangereuse et illégale. Mais la véritable question, c'est, et peut-être que c'est cette décision qui nous permet d'y réfléchir, c'est où va le conflit israélo-palestinien, où vont les Palestiniens, et que va devenir cette possibilité de deux États si les événements sur le terrain continuent à évoluer comme ils évoluent maintenant depuis de longues années. C'est une constatation que les États-Unis n'ont pas pu, depuis bien longtemps maintenant, faire évoluer les réalités sur le terrain dans un sens favorable à la construction de deux États.
Jared Kushner est à la tête d'une initiative américaine dont on ne sait pas grand-chose. Vous savez de quoi il s'agit?
Non, et je doute même que cette initiative soit finalisée. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a des idées que les officiels américains ont partagées avec certains dirigeants arabes. Les réactions ont été mitigés, je crois. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, à mon avis, c'est un plan qui est en train de se faire. Mais ce sera très, très difficile pour l'administration de mettre sur la table quelque chose que les Israéliens et les Palestiniens peuvent accepter. Et donc, ils doivent se préparer à un refus de l'un ou de l'autre. Franchement, aujourd'hui, je connais très peu de gens qui pensent que ce plan américain aura un quelconque intérêt, une quelconque portée, autre que l'intérêt de savoir à quoi ils pensent, à quoi ils réfléchissent. Je ne veux pas paraître trop pessimiste. Hein. Comme je l'ai dit, c'est une faillite qui remonte à longtemps. Difficile dans ces circonstances de voir comment on peut arriver à un véritable progrès. D'autant plus que le monde arabe, malheureusement, est très distrait et très préoccupé par d'autres choses. Et pour beaucoup de dirigeants arabes, et lorsque je dis le monde arabe, je parle des dirigeants arabes, la priorité n'est plus, et depuis un certain temps, la question palestinienne.
Alors justement, on parle d'un rapprochement entre Israël et les pays sunnites pour s'allier contre l'Iran. Ça vous paraît une bonne approche ?
Si l'idée est de souder ces liens qui aujourd'hui sont un peu cachés, si l'idée c'est de les souder, les rendre plus publics, il me semble que la façon de le faire, ce n'était pas d'embarrasser les dirigeants arabes qui seraient prêts peut-être à se rapprocher d'Israël, de les embarrasser avec une décision qui les met dans une position très inconfortable, parce que certains de ces dirigeants, que ce soit en Arabie Saoudite ou dans les Émirats, sont perçus comme étant assez proches de l'administration Trump. Or, leur proximité, leur bonne relation avec l'administration Trump n'a évidemment pas réussi à le faire infléchir la décision américaine. Donc, si on parle à l'opinion publique arabe, ils se disent à quoi sert que ces dirigeants se rapprochent des États-Unis si en récompense, ils obtiennent cette reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc, ça ne fait que davantage discréditer certains dirigeants arabes qui, c'est vrai, certains aimeraient pouvoir travailler davantage avec Israël, mais qui doivent également penser à leur propre légitimité, leur propre popularité en interne, et cette décision ne peut pas les aider, c'est sûr. Et ça ne peut pas être une bonne nouvelle ni pour Washington, ni pour ses dirigeants.